à toutes, bonjour à tous. Enregistré dans les loges du théâtre municipal, ça fait jaser, l'émission de Bac FM au cœur du 38e Jazz d'Auvers Festival. Et aujourd'hui, je reçois Joss Mieniel, flûtiste qui donnera le premier concert de ce 38e festival en trio. Bonjour Joss.
Bonjour.
Comment la flûte est apparue dans ton monde ?
Par un concert de Jean-Pierre Rampal, quand j'avais 10 ans.
D'accord. Très longtemps.
Ouais, enfin, il y a très longtemps. Si, quand même. Hein. On peut le dire. Ça commence maintenant. Ouais, j'étais à un concert avec mes parents. Je crois que c'était le concerto pour flûte et harpe de Mozart, un truc comme ça.
D'accord.
Et puis, voilà, ça a été une sorte de révélation quand même. Hein. Je crois, ouais. J'ai ressenti une vibration.
Dedans, comme Obélix, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Et du coup. T'as fait une formation, t'as appris tout seul, comment ça s'est passé ?
Oui, j'ai fait un petit parcours de un peu normal, l'école communale, voilà, pas forcément de conservatoire tout de suite. Et puis comme je me suis intéressé très très vite au jazz, quelques années après, je me suis mis au saxophone en fait.
D'accord.
Et là, j'ai commencé vraiment à me consacrer pleinement au jazz et puis j'ai repris mes études de musique après un parcours un peu hors du commun parce que j'ai été cuisinier avant moi.
D'accord.
Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses. Ouais, exactement. Et puis voilà, je suis remonté un petit peu jusqu'au Conservatoire supérieur de musique de Paris où j'ai eu mon prix en 2004,
ouais,
il y a longtemps.
Mais comment la rencontre avec le jazz s'est faite, comment ?
Oh, je pense que c'est mon père qui ramenait des disques et qui m'ont tout de suite mis dans un rapport, comment dire, très intime avec cette musique. Parce que je me rappelle écouter deux albums en particulier, c'est la bande originale d'Ascenseur pour l'échafaud et les liaisons dangereuses d'Art Blakey, la version de Vadim. Et c'était le début du Walkman. Donc, je me rappelle mettre ces disques-là, ou ces cassettes, d'ailleurs c'était des cassettes, et d'écouter ça pendant des heures, un peu, de m'isoler un peu dans ma bulle, mais ça me parlait directement à mon cerveau, quoi. Ça me caressait l'oreille.
La musique avait une enfance, en fait.
Ouais, ah bah ça oui, à la maison, il y a eu beaucoup de musique, toujours. Mon père m'a pas mal mis dans le jazz, mes parents aussi, et dans la musique classique un peu moins, mais c'est moi qui l'ai fait un peu plus maintenant, mon parcours sur la musique classique.
Ouais. Ouais.
Mais ma vibration, elle est vraiment jazz, ouais.
D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a des maîtres américains, des flûtistes qui t'ont inspiré
Bien sûr, pas que américains, mais en tout cas dans le jazz, oui, évidemment, Orland Kirk en tête de liste, parce que c'est quand même justement par rapport à ma manière d'envisager la flûte qui est très ouvert sur les cultures du monde et sur les manières de la jouer différemment. Roland Kirk, il a cette force aussi d'allier ce jeu bebop sur la flûte et en même temps de le jouer comme une flûte Peul et en même temps comme une flûte trad, enfin ou un jouet d'enfant. Enfin, il a une approche très très ludique de cet instrument. Et puis il y en a plein. Dolphy, évidemment, ça c'est sûr. Mais surtout, j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années le flûtiste qui accompagnait Chet Baker dans la dernière partie de sa vie sur scène, qui s'appelle Nicola Stilo, qui est un Italien qui existe encore, hein, qui est toujours en vie, qui est vraiment un flûtiste extraordinaire. Et donc plein de fois il est venu à la maison, on a joué ensemble et c'était une chouette rencontre parce que c'est vraiment à la fois Chet, à la fois Charlie Parker et Coltrane à la flûte. Et en fait à partir de lui j'ai trouvé vraiment un modèle de phrasé que j'avais jamais entendu précédemment, parce que c'est pas évident de phraser à la flûte en jazz, et vraiment ternaire. Donc ça a été vraiment un déclencheur pour moi de me dire ah ça y est, j'ai trouvé une sorte de repère pour comment phraser, quoi.
Il y a eu un mentor quelque part qui a...
Ouais, c'était pas forcément le cas de tous les autres, quoi. Il phrase pas de cette manière là comment s'appelle le flûtiste là qui jouait dans l'album de Pastorius là. Qui a joué énormément, qui a fait toutes les séances pour Herbie Hancock. Il y en a qui détachent, il y en a qui lit tout ça, mais d'un seul coup lui, Nicola Stilo, il a vraiment ce phrasé de Della Fitzgerald quand elle chante, quoi, di di di, et ça c'est vraiment le truc du jazz, quoi. Ouais, puis c'est vraiment un truc qui permet de rentrer vraiment dans la pulsation ternaire, quoi.
Alors j'ai eu la chance de t'écouter ce matin parce qu'il y avait le concert pour les mécènes du festival. Donc moi j'ai pensé tout de suite à un homme orchestre, celui qui avait une grosse caisse dans le dos, qui avait plein d'instruments pendus autour du cou, des cymbales entre les jambes, des grelots aux pieds. Et quand je t'ai entendu au début, tout de suite, L'électronique, l'électronique te permet un éventail énorme. C'est un vrai hors orchestre.
Ça permet de me dédoubler, de me superposer plein de couches comme ça. Parce que aussi, il y a une grande tradition des orchestres de flûte dans le monde entier, en Afrique et ailleurs, où c'est des polyrythmies en fait, où chacun a son rôle. C'est une sorte de gamelan en fait, on pourrait dire ça, où chacun fait sa ligne, son rythme, et tout ça s'entremêle et fait une sorte de millefeuille géniale, quoi, qui construit un peu comme ça une sorte de récit. Donc quand j'ai découvert il y a longtemps maintenant hein, toute la force des pédales de boucles et transformation des sons, ça m'a permis d'atteindre une nouvelle dimension dans mon instrument que j'avais pas précédemment. Et donc de me donner des idées aussi très différentes, parce que je pratique énormément les instruments d'autres cultures. Donc je joue du ney, de la flûte peul, des bandes-souris, des flûtes asiatiques et autres, et même d'Amérique du Sud, non pas pour en être spécialiste, parce qu'il faut passer une vie pour être spécialiste de ça, mais pour donner une dimension, enfin une imagination pour changer le son, moi, sur mon instrument. Et quand j'ai travaillé avec Aram Lee, qui est un grand flûtiste traditionnel coréen, avec lequel j'ai fait un disque là il y a 3-4 ans, j'avais noté aussi que finalement, il arrivait à faire des effets que moi je cherchais à avoir avec mes pédales sur un instrument qui est vieux.
Tout seul avec ça.
Oui, parce que en fait, c'est le degom, donc c'est une sorte de gros bande-souris coréen qui vient de la musique chinoise, bien sûr. Mais du coup, il y a le vibrato, il y a aussi un petit mirliton avec une feuille de papier de riz qui fait saturer le son. En fait, de tout temps, en fait, je pense que l'être humain a voulu transformer le son. C'est pareil en Afrique, il y a rien où il y a pas de timbre. Toutes les percussions, il y a un timbre, il y a un truc qui résonne, qui fait comme ça, les balafons ou les djembés, il y a toujours quelque chose qui fait. Donc on cherche à transformer les sons, que ce soit avec des gros vibratos, avec des saturations, plein de choses, et c'est pas nouveau. Donc moi, avec un instrument européen qui est très récent finalement, qui a un siècle et demi dans sa facture moderne, inconsciemment j'ai eu envie de reproduire quelque chose que j'entendais partout dans tout ce que j'ai pu glaner d'ethnomusicologie dans les disques et mes voyages, et avec des effets finalement, des pédales d'effets de guitare. Et quand je me suis aperçu de ça, j'ai commencé à enlever des pédales d'effets. Voilà, pour essayer de refaire en vrai. Et d'ailleurs, je crois que j'arrive à peu près à faire à peu près tous mes effets. Mais là, bon, je m'amuse bien aussi pour avoir ça pousse le son un peu plus fort, quoi.
Voilà. Dans le concert de ce matin, on sent une générosité, un plaisir énorme de jouer. Quoique le matin, c'est peut-être pas.
Récemment, là, j'ai joué pour Jazz à Porquerolles. À 5h30 du matin, j'ai commencé, il faisait nuit, j'ai fini, il faisait jour, avec les oiseaux dans la nature. Ah ouais. Donc, moi, de toute façon, je suis relié à ça, avec la nature, avec mon instrument. Donc,
Mais parce qu'en fait, avec les clés, je ne sais pas si on dit les clés pour une.
Les clés, oui, tout à fait.
Tu fais des percussions.
Oui, alors, justement, c'est là que c'est génial, c'est que nos instruments modernes, occidentaux, ont des clés. Voilà. Et moi, je trouve que c'est super intéressant, parce qu'en plus, dans un micro, c'est encore plus. C'est encore plus flatté d'une certaine manière. Et tous mes copains qui ont des instruments traditionnels en bois, ils n'ont pas de clé, et ça les frustre beaucoup. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me saisisse de ça, ce qui me permet aussi de pas toujours être soliste, mais d'être rythmicien et d'accompagner un peu, de faire le rôle de la batterie quand je suis avec d'autres musiciens. Donc c'est très agréable parce que j'ai plusieurs rôles, j'ai plusieurs facettes là-dedans. Et puis la grosse dimension, moi, que je rajoute dans mon jeu, que on interdit en général de faire au conservatoire, c'est le souffle. On n'a pas le droit normalement. Et moi, je trouve que en fait, dans la flûte peul, par exemple, il y a énormément de souffle. C'est un instrument à vent, donc on doit sentir la respiration, la vibration, et c'est ça qui met le frisson souvent.
Ce matin, on a entendu des oiseaux dans la jungle, on a entendu le bouche australien. Quand tout d'un coup, on entend la flûte classique, enfin européenne, on revient sur terre, et le voyage était vachement passionnant, quoi.
Ouais, c'est ce que je suis quand même un Français qui vit dans une cité urbaine à Paris toute l'année, mais en même temps, quand je joue, J'ai ce côté un peu primitif de l'instrument, très en lien avec la forêt, avec tout ça. Je sais pas pourquoi. En fait, je me suis toujours posé cette question. J'ai jamais réussi vraiment à résoudre cette énigme. Je pense que c'est juste que cet instrument, c'est 6000 ans d'histoire, 6000 ans de culture qui arrivent avec notre instrument et qu'il faut, et que moi, je peux absolument pas retenir, quoi. Donc, ça vient avec moi. Et en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, il y a beaucoup, on dirait des synthétiseurs électroniques, donc j'en fais beaucoup de musique électronique, donc ça fait partie aussi de mon langage, la répétition, le tempo, le beat et tout ça. Donc voilà, c'est tout ça qui est réuni dans mon travail depuis longtemps.
Je discutais avec des amis qui étaient au concert ce matin, qui disaient, mais ce mec-là, il a trois cerveaux, parce que comment il danse avec ses pieds pour mettre en route ses pédales, il change d'instrument, il joue de la flûte, il chante, il se tape sur la poitrine.
Ouais, c'est... Je laisse venir, j'écoute un peu ce qui me vient, puis c'est de l'improvisation. Je sais même plus, je sais plus l'expliquer, ouais. Ça depuis tout ce temps que je le fais.
Il y a peut-être pas d'explication.
Bah, il y a une explication que c'est la créativité, et puis c'est, ça vient comme ça sur le moment. C'est l'acoustique, c'est les gens aussi, le son, c'est plein de choses, quoi.
Est-ce que c'est pas ancestral ? On sait par exemple que la grotte Chauvet, quand les nouveaux ont bétonné la chose, ils ont cassé le son, mais on sait maintenant que les anciens jouaient sur les stalactites, avaient des flûtes, parce que la flûte, on peut la créer avec un bout de bois, avec un os, avec n'importe quoi. Donc ce son, en fait, est-ce qu'on n'a pas ça dans nos ADN, et puis toi, tu as joué de la flûte et c'est revenu
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que c'est pas pour rien que ça fait partie des instruments les plus anciens, je pense, de l'histoire de l'humanité, avec peut-être le chant, la percussion. Et... Parce que justement, c'est un instrument nomade, on fait une note, deux notes, des fois. Je crois même qu'on a trouvé dans une grotte en Bavière une flûte dans un os de mammouth à trois trous qui remonte à 40 000 ans, un truc comme ça. Donc,
la musique existe depuis.
Ouais, elle est là, on a besoin de. Mais c'est pas une posture artistique. Au début, c'est vraiment quelque chose qui accompagne le quotidien. Donc, la vie, voilà, la nuit, le jour, la chasse, voilà, raconter des histoires, raconter tout ce qui s'est passé, et puis accompagner même le travail quotidien, hein, pour s'alimenter et tout ça. Donc, et c'est ça que j'aime, en fait, c'est ce côté non posture artistique dans la musique. Ça repose beaucoup l'esprit. Moi qui suis tout le temps en train de faire plein de compositions, de commandes, d'écriture et tout ça, des fois j'ai besoin de me reposer et de pas partir sur une posture artistique, mais de faire quelque chose qui accompagne le moment présent. Voilà. Donc quand j'ai joué à Porquerolles cet été, il y avait les oiseaux qui commençaient à entendre dans la forêt avec moi, et puis avec le soleil. Ouais, mais il y a un truc comme ça qui s'est posé, et c'est ça, en fait, que je raconte d'une certaine manière.
J'ai vu une émission, pardon, je pense à ça, mais une émission sur les autistes, et il y a une maman qui racontait que, en fait, son fils, elle l'a jamais vu, sauf quand elle lui chante.
Ah ouais.
C'était là qu'elle lui chante. Est-ce que tu veux manger de la purée ? Et là, il répond. Si elle ne chante pas, il ne répond pas. Donc il y a quand même une force absolue de la musique.
Ouais, ça, visiblement, même sur les maladies d'Alzheimer, ça a l'air d'être un truc incroyable qui fait revivre des émotions. Parce que c'est tellement pas tangible, la musique, que du coup, il y a quelque chose qui nous échappe, et en même temps, qu'on adore, avec le girl, on adore flirter, quoi, parce que c'est un instant d'émotion, on s'en va et tout. Ce matin, là, les gens sont venus me voir, il y en a qui pleuraient et tout ça. En fait, ça peut nous faire revivre des événements de notre enfance, enfin des souvenirs, sans les vivre. Et moi, c'est ce qui me fascine dans la pratique musicale, c'est justement d'aller chercher à toucher l'inconscient universel ou archaïque de tout le monde. Et là où je suis toujours touché par les grands artistes, c'est quand ils arrivent à faire ça d'une certaine manière, et qu'ils arrivent alors qu'il y a autant de gens différents dans la salle, et ils arrivent à toucher tous ces gens là d'une manière différente, mais ils arrivent à les toucher. Donc on a tous quelque chose d'en commun.
Moi, j'ai vécu une expérience au festival de jazz, une expérience sensorielle. C'était un solo de Claude Chamichian dans une petite salle, et en fait tout le concert j'ai pas entendu la musique, j'étais dans l'émotion, et j'ai découvert la musique en écoutant le disque après. Et j'étais totalement dans l'émotion, je pleurais, en fait j'étais dans une émotion complète, quoi.
C'est ça.
Cette force de cette la musique, ouais, est quand même extraordinaire.
Ouais, ouais, bah en plus, Claude, je vois tout à fait, j'ai déjà entendu ses solos, il y a vraiment cette force-là,
ouais,
qui va bien au-delà de ce qu'on entend.
Ouais.
Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant, parce que c'est vraiment, comme tu le dis, une expérience sensorielle, vraiment ça. Ouais. Et finalement, on vit pour ça, quoi, la musique. Ouais. Enfin, moi, je vis pour ça, et quand je l'écoute, il me faut ça, donc j'ai envie de redonner ça ensuite aux gens, quoi.
Donc, en fait, tu es là aussi parce que ce soir, tu joues avec deux compagnons, deux amis, je ne sais pas.
Ah ouais, tout à fait.
Fabien au piano et Arnaud Cuisinier à la contrebasse. Du coup, c'est en groupe. Alors, est-ce que avec ta flûte, est-ce que tu auras tes pédales d'effet? Comment ça se passe ce soir?
Alors non, j'aurai pas de pédales d'effet ce soir parce que le contexte est beaucoup plus acoustique, piano, contrebasse, flûte. Et aussi, il y a une dimension qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on chante tous les trois.
D'accord.
Parce qu'on est tous les trois chanteurs et que du coup on a chacun un petit moment où on chante une chanson individuellement, mais aussi la plupart du temps on chante en voix chorale à trois voix.
D'accord.
Donc ça donne une vraie force à un trio qui est plus pour le moins assez classique, hein, flûte, ouais, contrebasse, piano, mais là d'un seul coup l'apport des voix,
il n'y a pas de rythmique, à moins que tu le fasses.
Je le fais moi en général à la flûte.
Ouais.
C'est ça, c'est assez pratique quand il n'y a pas de batterie, ça me permet d'être dans ce rôle-là, et t'as raison, je le fais vraiment avec le souffle et les clés. Et non, c'était une rencontre superbe parce que c'était à l'initiative d'Arnaud un jour qui nous a réunis dans des concerts chez des particuliers en Bourgogne, l'année dernière, et ça faisait longtemps qu'on avait envie de jouer ensemble avec Macha, et c'était une idée super, et ce trio est né. Et c'était tellement incroyable ces trois concerts qu'on s'est dit il faut absolument qu'on continue. D'ailleurs,
c'est tout récent,
puis on va enregistrer le disque là à cet hiver. Et non, c'est vraiment, et chacun a apporté sa musique. Il y a des standards, il y a des mélodies traditionnelles arméniennes, il y a des choses très très différentes. C'est un très beau voyage, et c'est très profond en fait, comme les voix habitent beaucoup, ça c'est fou en fait, la portée des voix, c'est un truc incroyable, donc c'est très agréable de les retrouver à chaque fois pour des concerts.
Alors maintenant j'aimerais évoquer un musicien qui joue ce soir en direct, Henri Texier, avec lequel tu as joué aux 40 ans de Marciac à la flûte dans son grand orchestre. Mm-hmm. Je trouvais que la flûte ça allait bien avec sa musique. Tu peux nous parler un peu d'Henri Texier?
Déjà, je peux te dire que c'est sur le panthéon des musiciens que j'adore. Je pense que
ici en 80.
Il fait partie des.
Ouais.
En fait, c'est l'énorme référence de ma musique.
Ouais.
Voilà. Moi, j'ai énormément écouté Henri. J'étais très fier de jouer avec lui pour ce All-Star.
Oui,
parce qu'on était partis en Corée, on avait fait la même chose à Séoul avec Manu Katché, RL Besson, et puis du coup on a fait le match retour en France à Marciac. C'était dingue ce concert, c'était fou. Et il y a deux ans je lui ai proposé de jouer en duo au Théâtre des Pernets, où j'étais moi à l'époque en résidence. Et sur un truc très particulier, parce qu'en fait, là où Henri m'a beaucoup influencé par rapport à ce que je fais au concert de ce matin, c'est qu'il a fait des albums en solo dans les années 80, fin 70, qui sont maintenant très samplés, et où il s'enregistrait, et il se réenregistrait au oud, au chant et tout ça. Moi, ça m'a servi vraiment beaucoup, beaucoup d'écouter la musique d'Henri, et du coup, je lui avais proposé qu'on recrée ces morceaux-là sur scène avec lui, où moi, je recréais toutes les boucles, en gros, les guimbardes, les machins et tout, et lui, il se posait avec sa contrebasse. Basse, c'était génial. En fait, ce concert était génial. Et donc Henri, pour moi, oui, ça c'est d'abord on s'adore, et puis c'est vraiment quelqu'un de très 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 important dans ma vie. Quand je suis tombé sur Man Nomad, cet album, en fait, ça, il y a vraiment avant et après dans ma manière d'envisager la musique, et ça a été vraiment très très important.
Ouais. J'ai écouté
Spocky.
Ouais. Tout début avec la contrebasse,
ouais.
un moment exceptionnel. Écoute, merci Joseph d'avoir accordé ce petit moment.
Merci à toi.
De souvenir. Donc tu joues à 18h30 avec Macha,
ouais,
qui arrive en piano, Arnaud Cuisinier à la contrebasse et toi-même à la flûte sans machine.
Exactement.
À 18h30 au théâtre municipal. Et donc on se quitte, on écoute Mélisande de Célène Saint-Aimé à la contrebasse et voix, Herman Mehari à la trompette, Irvine Akao au sax ténor, Xavier Bellin au piano et Sonny Troupé à la batterie, qui joue ce soir en ouverture à 20h30, juste avant le sextet dans le Texier. Merci Joss.
Merci à vous.
Bon concert, à tout à l'heure.
Merci.
일로 갈 소리 소리에 가로니까 이러고 묻게 소리게 일레 고리고 살라가 요구모 발레 고리요구 살레이고
Ça fait jazzer l'émission de Bac FM installée au cœur du 38e Jazz Nevers Festival. Et je reçois maintenant Marion Rampal, que j'ai interviewé ce vendredi par téléphone. Bonjour Marion Rampal, vous êtes chanteuse Bonjour. De jazz et vous vous produisez au Théâtre Municipal au 38e Jazz Nevers Festival ce dimanche 10 novembre à 17h avec votre nouvel orchestre intitulé Oiselle. Expliquez-moi tout de suite, Oiselle, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oiselle, c'est une sorte de mot que j'ai créé, mais à partir de vieux mots qui désignent l'oiseau, en fait.
C'est ça.
Donc c'est un peu le nom de cette espèce de créature que je file, hein, après laquelle je cours ou je vole à travers tout le disque.
D'accord.
Et tout le répertoire. Toutes les chansons évoquent souvent la figure de la liberté, de l'oiseau, de la nature, mais aussi de la folie, etc.
Ce serait le féminin de oiseau.
Ouais, c'est plutôt un mot masculin pour moi. Je ne l'ai D'accord. pas écrit oiselle comme damoiselle. C'est vrai
ouais,
que
ouais,
damoiselle,
c'est
damoiselle
ça,
vient
ouais.
de oiselle. Ouais.
Voilà. Et donc, parlez-nous de ce concert. C'est un récital de chansons, c'est un concert.
C'est un récital de chansons avec un groupe constitué de. C'est un quartet, hein,
ouais.
Contrebasse, batterie, chant. On est à la frontière vraiment savoureuse, parce que pour nous, elle est savoureuse, cette frontière entre. Folk, chanson et jazz.
D'accord.
C'est ça qu'on aime, c'est les références qu'on a, que ce soit Joni Mitchell, Ricky Lee Jones, Abbey Lincoln, voilà.
D'accord. Nora mais,
Jones.
Mais dans l'enregistrement, vous chantez en français.
Je chante en français dans l'enregistrement. Il y a quand même plusieurs titres en anglais dans le répertoire du concert.
D'accord.
Qui sont issus de disques okay. précédents ou des reprises.
Et donc, c'est vous qui écrivez vos textes, et êtes-vous la compositrice de vos musiques?
Moi, je suis la compositrice des chansons, et ce sont des chansons qui sont, comment on peut dire, réarrangées, sublimées par guitariste et réalisateur Mathis Pascot. Donc, c'est un travail un peu à quatre mains donc, à l'étape du disque.
Voilà, donc vous êtes entouré par une guitare, une contrebasse et une batterie.
Tout à fait.
Voilà. Alors, moi, je vous ai vu à la Grange de l'Oiseau Bleu en 2023 avec Isabelle Sorling, à Artel, chez Benjamin Flamand. Et vous jouiez de la guitare. Est-ce qu'en scène, vous jouez de la guitare ?
Quelques morceaux, oui.
Ok, quelques morceaux. Et alors, du coup, comme c'est un tour de chant
c'est
français...
C'est un morceau et important. Voilà.
D'accord. Et est-ce que vous qualifiez quand même de chanteuse de jazz ? Parce qu'on va parler un peu après de votre éclectisme. Est-ce que vous êtes toujours une chanteuse de jazz ou...
Moi, je crois bien que oui. Mais vous savez, en ce moment, je travaille sur le répertoire de Abby Lincoln, parce que j'avais très envie de lui faire hommage depuis longtemps.
D'accord.
Et elle dit quelque chose de très beau. Elle dit « Le jazz n'existe pas, il y a juste une chanson et votre esprit. » Et cette musique, je l'aime parce que c'est la musique c'est qui ça. Aide à forger son caractère.
D'accord, voilà. Mais alors... Bon, vous avez une carrière très éclectique, et puis moi, il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est que vous avez collaboré avec le grand musicien Archie Shepp dans I Heard the Song.
Aujourd'hui, je collabore toujours avec lui.
D'accord. Ouais. Alors, comment s'est passée cette rencontre initiale avec Archie, quelqu'un que j'admire énormément? Comment est venue votre collaboration?
En fait, on s'est rencontrés par un peu les hasards et les bonheurs, les rencontres heureuses de la vie. J'ai rencontré Archie... à la fois via le Festival Jazz de Porquerolles, mais aussi par un lien familial qui nous unit. Voilà, on a des alliances en commune avec Archie.
D'accord.
Qui partage sa vie entre les USA et la France. Et puis très vite, je me suis mise à chanter au piano avec lui, à improviser, à travailler, enfin peu à improviser, plutôt à travailler des standards, travailler des chansons de Ellington et ses chansons à lui. Et puis j'ai participé à plusieurs répertoires, plusieurs projets. Et donc, c'est tissé au fil des années une vraie complicité et une sorte d'apprentissage, de compagnonnage qui continue encore aujourd'hui.
Ah, c'est bien ça, d'accord, ok. Parce que alors, du coup, avec lui, vous chantez du blues, des standards de jazz, des textes originaux.
Je chante plutôt des chansons à lui, en fait.
Ah, d'accord, je ne savais pas qu'il composait.
Grand songwriter. Alors, on n'étudie pas sa musique vocale dans les conservatoires parce qu'il a refusé qu'elle soit éditée par exemple, les éditeurs du Real Book, vous savez, cette espèce de bible des musiciens de jazz. Mais c'est une œuvre, au même titre que l'œuvre d'Abby Lincoln, de chansons jazz modernes, contemporaines, qui est extraordinaire. Et notamment, il a beaucoup écrit sur les femmes. Bon, moi, j'ai eu la chance de surtout bien connaître et bien chanter la musique d'Archie.
D'accord. Ouais. Bon, ça,
c'est... Beaucoup chanter, bien chanter, je ne sais pas. J'essaie toujours de la chanter au mieux. Mais...
D'accord. Voilà. Oui. Puis dans vos collaborations aussi, il y a Raphaël Imbert qui joue cette année au festival. J'ai vu dans votre bio, que, dans la bio de Raphaël, que très souvent vous intervenez dans ses albums, dans ses enregistrements. Quel est le travail avec Raphaël qui doit être différent qu'avec Archie Shepp?
En fait, c'est pas sans lien, mais Raphaël, ça a été la personne grâce à qui j'ai eu envie de faire du jazz, de me rediriger vers cette musique après avoir fait quelques années de pop et de rock. Donc j'ai tout de suite été très très attirée par sa façon de mener cette musique et d'aborder cette musique, qui est à la fois savante et puis libertaire, autodidacte. Et c'est quelqu'un qui est passionné par les répertoires de chansons. On a arpenté le sud des États-Unis ensemble.
Ah, oui.
On a joué avec des musiciens traditionnels des Appalaches. Avec des musiciens baroques italiens, enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas de frontières dans sa musique, et le jazz n'a jamais eu de frontières, en fait. Et je trouve que Raphaël incarne ça aujourd'hui, notamment en tant que pédagogue et directeur de structure, puisqu'il dirige les écoles d'art et de musique à Marseille aujourd'hui. C'est vraiment un acteur essentiel du jazz aujourd'hui en France.
Ouais, d'accord. Et puis j'ai vu aussi que vous avez enregistré avec le quatuor Manfred, qui est un quatuor classique par excellence.
Voilà, que j'ai rencontré grâce à Raphaël Imbert. Voilà,
d'accord,
voilà,
oui, parce qu'il a fait, un Coltrane avec eux, oui.
Un Bach Coltrane, un Mozart Ellington, et donc on s'est intéressé au cabaret des années 20, à la musique de cabaret, la musique de Courtevaille, etc., avec le quatuor Manfred.
Ouais. Donc en fait, vous êtes très 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 éclectique.
Moi, je pense que je suis éclectique, mais ce que je cherche, autant en tant que compositrice qu'en tant que chanteuse, finalement, c'est une sorte de cœur expressif commun à plein de chansons en Europe et en Amérique du Nord, et puis les ponts qu'il peut y avoir aussi entre toutes ces musiques-là. J'ai jamais fait un musique de ce qu'on peut dire de world music, un disque de world music.
Oui,
Je m'intéresse pas non plus à, c'est pas, je m'intéresse pas à toutes les musiques, mais je suis un fil quand même. Je suis un peu un fil. Et puis je m'intéresse à des musiques qui sont souvent assez libertaires, assez politiques, assez engagées, que ce soit des textes de Bertolt Brecht ou d'Archie Shepp ou d'Abby Lincoln.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Et après, je m'intéresse au folklore aussi. Donc ça, dans mes propres chansons, c'est vrai que je recherche un peu un folklore français qui a migré en Amérique du Nord, donc au Canada, en Louisiane,
ouais.
etc.
D'accord, ok. Alors, parlons un petit peu de vous de façon simple. Vous êtes issu d'une famille de musiciens, il y avait de la musique chez vous, dans la maison familiale?
Il y avait de la musique chez moi, ouais. Il y avait de la musique et j'ai des ancêtres musiciens. J'ai un grand-père compositeur pianiste, un grand-père pianiste de jazz. Donc ça écoutait beaucoup de musique dans les deux familles, là, chez mon père et ma mère.
Donc c'est la tradition familiale qui continue.
Oui, mais... Toutefois, ce n'était pas évident. Je pense que mes parents, ils m'auraient bien vu avocate ou médecin, vous voyez.
Donc, oui, mais ça, c'est le cas de beaucoup de parents de musiciens qui sont très inquiets.
Ouais, il a fallu quand même faire sa crise pour pouvoir imposer cette vocation, quoi.
Ouais. Ouais. Et alors, avant d'entrer en scène, comment êtes-vous? Impatiente, traqueuse, enthousiaste? Comment êtes-vous avant d'entrer en scène?
Oui, je peux être traqueuse, surtout quand je chante mes propres chansons, parce que finalement, d'accord, c'est quand même pas mal se mettre à poil, et c'est pas pareil de le faire sur un disque que sur scène. Donc je viens partager des histoires qui sont parfois très personnelles, très intimes, familiales, etc. Et j'ai vraiment à cœur que tout le monde dans la salle puisse un peu s'y accrocher et y reconnaître quelque chose. Donc je dirais que j'essaye d'être le plus concentré possible et le plus inspiré possible.
Et alors, comment le choix des musiciens qui vous accompagnent, comment ça s'est passé? C'est des amis? Il y a eu un casting? Comment ça se passe pour vous?
Oui, alors c'est un joli mélange parce que, en fait, à la contrebasse, Simon Tailleux, c'est quelqu'un avec qui j'ai évolué dans mes jeunes années de jazz, puisqu'on a fait la même école à Salon de Provence.
D'accord.
On a joué ensemble aussi dans notre vingtaine avec Raphaël Imbert. Ensuite, on s'est perdu de vue, en tout cas musicalement, on jouait peu ensemble. Et en fait, la rencontre avec Mathis Pascot à la guitare, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et là, ça a été une rencontre vraiment déterminante pour moi, très riche. Et lui, de son côté, il collaborait déjà étroitement avec Raphaël Chassin à la batterie.
D'accord.
Et vraiment un orfèvre de la batterie. Et puis, à la frontière entre la musique vocale, comme ça, la pop et aussi le jazz, puisqu'il accompagne Eric Truffaz aussi. Tous les deux, ils accompagnent Truffaz et plein de gens... Hugh Coltman aussi. Donc c'est des gens qui ont une sorte de patte comme ça, de monde musical bien à eux, et c'est très précieux.
Et visiblement très varié.
Très varié, mais enfin quand même, il y a une intention particulière. Je crois que on est tous fans de ce qu'on appelle l'Americana, donc la musique américaine.
Oui.
C'est pas forcément une carte qu'on joue beaucoup en France, même dans le jazz. Et dans le jazz vocal, donc on défend ça quand même. Voilà.
Ouais. Alors du coup, parlons un peu de l'avenir. C'est quoi les prochains projets? Votre éclectisme va vous emmener vers où?
Moi, j'emmène Oisel sur scène jusqu'à bien la fin année 2025, j'espère.
Le souhaite aussi, oui.
Pas mal se déployer. Et puis, comme j'ai la chance d'être résidente du Festival Jazz sous les pommiers pendant 3 saisons, j'ai commencé un travail en hommage à Abbé Lincoln et à la musique d'Abbé Lincoln.
D'accord. Oui, c'est un beau travail, ça.
Voilà.
Il y a matière.
Ouais, et je fais aussi une sorte de balade un peu buissonnière depuis 2-3 ans au Canada et dans d'autres contrées francophones d'Amérique du Nord. Et ça va donner lieu aussi à des concerts un peu documentaires, un peu amusants, une sorte de concert de poche un peu à la frontière entre docu et poésie avec des musiciens canadiens, justement.
Très bien. Tout ça est très riche, donc.
Je m'ennuie pas, je suis pas quelqu'un qui m'ennuie dans mon travail. Ça,
d'accord.
Le temps est compté, quoi. C'est assez court, une carrière, une vie.
Quoique assez court, quand on voit la carrière d'archichef, on se dit que ça peut durer longtemps.
Oui, c'est sûr, mais bon, chaque choix est déterminant, notamment là, après, moi, ça fait 20 ans que je suis sur scène, j'arrive dans le milieu de la quarantaine, c'est vrai que les choix et les inspirations sont un peu plus sérieux, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on chante, à ce qu'on dégage, à ce qu'on exprime, etc. Voilà. Ouais. Dans un monde qui en plus est assez inquiétant
de
toutes parts.
L'Amérique est très inquiétante.
Le monde entier est très inquiétant.
Le monde entier est très inquiétant.
L'Amérique.
Effectivement.
Donc est-ce que nos chansons, comme dit Archie, peuvent aider, accompagner le changement? Est-ce que ça peut encore marcher, ça? Moi, j'y crois quand même si ça peut...
Oui, en tout cas, ça peut aider à le supporter. Nettement, à aider à vivre quand même. Moi, je sais que sans musique, je pourrais pas vivre.
On n'est pas que sur scène. C'est vrai qu'une heure sur scène, c'est vraiment le climax de ce qu'on peut faire. C'est un rendez-vous très, très important. Mais là, par exemple, je passe 4 heures dans un collège avec deux classes de 3e à faire des collages pour créer des affiches ou des poèmes autour d'Abbé Lincoln. C'est tout aussi précieux pour moi.
Absolument. Oui, la transmission est indispensable.
Voilà.
Absolument. Eh bien, Marion, je vous remercie. Alors, moi, j'ai vu que la presse est spécialisée jazz et dithyrambique à propos de ce concert Oisel. Moi, le disque m'a beaucoup plu. Il y a une belle poésie, il y a une belle atmosphère, les morceaux que j'ai écoutés. Donc, on vous attend avec le désir de vous écouter le dimanche 10 novembre sur la scène du théâtre à 17h. Merci beaucoup d'avoir...
Merci.
Au revoir, Marion.
Au revoir.
Et maintenant, un rappel du programme de la journée. Au Théâtre Municipal, en ouverture du festival à 18h30, le trio Macha Garibian, piano et chant, Jos Mieniel, flûte et chant, et Arnaud Cusinier, contrebasse et chant. Et à 20h30, à la maison, le sextet de Célène Saint-Aimé, suivi du sextet d'Henri Texier. Et ne pas oublier donc dimanche à 17h au Théâtre Municipal le quartet de Marion Rampal. Le lundi 11 novembre à 12h15 en petite salle de la maison, le duo de Sarah Murcia et Fanny Dechaillé revisite l'album culte de Lou Reed transformé. Lundi également, les premières jazz régionales d'Aise au Café Charbon à 17h avec trois groupes. Le quintet de Quentin Copal, flûte avec Timothée Cos, trompette, Thibaut Gomez, clavier, Tom Georgel, clavier et Victor Aubert à la contrebasse, suivi de Rod Minima avec Martin Daguerre, saxophone, Benjamin Salle au trombone et guitare, Simon Arnaud à la trompette et à l'euphonium et Philippe Boudot à la batterie, suivi par Bram de Zéphyr avec notre invité de tout à l'heure, Simon Deslandes, trompette et bugle, Raphaël Kenoen au sax, Didier Dufour à la cora, Nicolas Talbot à la contrebasse et Mathieu Desbordes à la batterie. Et on se quitte avec Grand Ours, notre invité Marion Rampal à la voix, Mathis Pascoe à la guitare, Simon Tailleux à la contrebasse, Raphaël Chassin à la batterie. Au revoir à toutes, au revoir à tous et on se retrouve lundi à 17h30 sur Bac FM 106.1 pour Ça fait jaser.
Ça m'a pris jour, ça m'a pris. J'ai fait le tour, les yeux rivés vers la forêt. Bien mieux qu'un fou, je mords les coups. Je deviens bête et je m'en vais sous l'arbre que je connais. Dites à mon grand-père, jusque loin sous la terre, je pars. Chez lui, j'ai pas peur des fusils. C'est moi la grande ours, celle que l'on course des yeux. Prends garde à la nuit que j'arrive, je mordrai tous les amours. Ça n'est qu'un grain, c'est qu'un grain d'ours, poussé d'en bas et qui me lance à vos trousses. Humer les filles, mordre les fils, au coin du bois et sous la lune, rêver sans loi. Amoureux.